Salut Jazz à tous les étages, bienvenue pour une heure, voire peut-être même un peu plus. Aujourd'hui on est très très gourmand et comme on a beaucoup de choses à dire, à montrer, à mettre en évidence, salut Claudine, on va continuer, même au-delà peut-être du temps qui nous est normalement imparti. Il y aura bientôt, très bientôt, c'est la semaine prochaine, samedi 3 février. À 20h, ici même, à l'Artéphile, un concert avec ce qui est peut-être la formule, je pense, la plus chérie du jazz, c'est le quartet. Et à la tête de ce quartet, Georges Cabassi, bonjour.
Bonjour.
Donc, Georges Cabassi, on va essayer un petit peu d'égrener comme ça l'itinéraire de ce musicien, parce qu'il a plein de choses intéressante, comme tous les musiciens, à nous raconter. Et puis à parler aussi, surtout, de cette musique qu'il a donnée à lui aussi, quand il avait 20 ans, je pense, même oui, un peu avant, après, ouais, envie de faire cette musique qui nourrissait pas à l'époque, et encore pas tout à fait aujourd'hui, son homme, mais qui était en pleine révolution, c'est-à-dire une musique faite de fusion, de rock, une période où ça bougeait beaucoup, c'est-à-dire la période des années 70. Là, donc, un concert, avec ce que je disais, la formule peut-être la plus aboutie, ou du moins celle qui permet le plus de richesse et d'expression pour chacun des musiciens.
Oui, tout à fait. Là, on a donc saxophone, clavier, contrebasse, batterie.
Donc Louis Guillermin à la contrebasse, Michel Martel, le batteur. Et Julien Tamissier qui est un petit peu à nouveau, parce que là, avec les deux précédés, oui, c'est un trio qui apparemment a déjà
des vieux compères.
Enfin, voilà.
Je ne suis pas si vieux que ça, mais voilà, oui, avec eux, j'ai travaillé beaucoup, on a enregistré pas mal, fait pas mal de choses, de concerts, différentes formations. Alors que Julien, ça fait 2-3 ans qu'on se connaît, on a créé un duo, et après, vu que ça marchait bien entre nous, ben, on a continué, donc maintenant, c'est le quartet.
Et j'ai vu que Julien avait quelque chose qui... C'est pas un hasard non plus, je pense, qu'il soit là aujourd'hui. C'est quelqu'un qui aime les sons d'aujourd'hui, mais qui les fait passer par des amplis à lampe, qui essaye de retrouver un peu ce son, le bon vieux son des Fenders, Rhodes des années 70, cette musique découverte, si on peut dire, ou du moins mise en avant par des gens comme Miles Davis, etc.
Exact. Oui. Il est passionné par les sons, il manipule, alors il a plein de gadgets, je dirais, mais je ne saurais vous dire exactement ce que c'est. Mais enfin, il a un univers sonore, moi, qui me plaît beaucoup et qui me ramène, justement, ben, ça peut être Miles Davis, Weather Report, mais aussi des choses peut-être plus contemporaines, enfin, voilà, c'est très ouvert, très un spectre sonore et musical très large. Ouais.
Et ce quartet joue son répertoire, c'est-à-dire des morceaux choisis, écrits par Georges Cabassi.
Ah oui, c'est moi qui... C'est trouvé que j'avais pas mal de morceaux que j'avais enregistrés en big band, en septet. Et puis bon, j'ai essayé de remonter une formation un peu conséquente, mais c'était trop compliqué au niveau de la disponibilité des musiciens, des répétitions, enfin bon, financières, etc.
Aussi, bien sûr.
Donc on a choisi de reprendre ces titres en quartet. Des fois, on reprend des standards aussi, hein, bien sûr.
On y reviendra, parce que c'est vrai que... quand on se trouve comme ça à la direction d'un big band, je pense que c'est... On a une Ferrari entre les mains.
Ah oui, ça a été une expérience magnifique, magnifique.
Le quartet, donc encore une fois, on reçoit cet après-midi Georges Cabassi qui jouera à l'Artéphile le 3 février prochain. Et on écoute tout de suite le 7 têtes, qui était une autre configuration musicale, avec un morceau qui s'appelle No Power. On en parle tout de suite ou après,
c'est pour ça ? Comme vous voulez.
Allez, on va l'écouter, on en parlera après. Thank you. Ah, c'est agréable quand ça sonne comme ça, n'est-ce pas, Georges Cabassi?
Oui.
Un beau set tête.
Oui, donc, ça me fait plaisir de réécouter.
Voilà. Une musique... On va faire un peu d'histoire, tiens. Histoire.
Oui.
On est à la fin des années 60.
Oui.
Il y a un certain Miles Davis qui vient d'écouter Jimi Hendrix, oui, qui est à la fois un petit peu ulcéré par le rhythm and blues et les musiciens blancs qui ont récupéré ce qu'il considère être comme ses racines, sa culture. Et il a envie de faire en sorte que les choses avancent, que le jazz bouge. Mmh. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs toute sa vie, ce gars. Et puis en même temps, il y a aussi deux espèces de bricoleurs comme ça qui, dans un coin, vont faire quelque chose qui va considérablement changer l'histoire du jazz. Mmh. C'est Harold Rod et Lou Fender. Donc le fameux Fender Road, le piano électrique,
oui, oui, oui,
qui est né donc, dans cette époque. Donc on connaît la suite, hein, Cy Landway avec McLaughlin, et puis cette espèce de, moi je considère que c'est un peu, c'est comme l'annuaire des musiciens qu'il faut avoir entendu dans les années 70, c'est les Beach Brooks, puisque bah, on va trouver tout ce qui va créer cette aventure dans les années qui suivent, c'est One Shorter, Joe Zawinul, enfin bref, bon, ils sont tous là, quoi. Ils sont tous. Miles Davis les a tous trouvés. Je serais tenté de dire que même un petit peu avant, il avait déjà un peu incité, instillé cette chose à partir du second quintet où il va faire venir Herbie Hancock pour remplacer Bill Evans. Il a eu du mal d'ailleurs à le trouver, je crois. Et puis Wayne Shorter qui a remplacé lui Coltrane. Déjà là, on partait sur une aventure. On pouvait pressentir en fait cette révolution. Cette révolution. Donc il y a un jeune homme à l'époque qui naît dans le Jura suisse, et puis qui un jour prend son saxophone, qui part un peu comme ça sur la route,
oui,
et qui tombe en Avignon, voilà, comme beaucoup de jeunes dans les années...
ces années-là, oui, en plus.
Ouais, hein, mm-hmm. Et qui fait la manche, parce qu'il faut bien jouer.
Oui.
Et la suite, ben, je vous laisse la raconter.
Alors, ben donc, voilà, je me suis retrouvé dans les rues d'Avignon à faire la manche avec un saxophone alto que j'avais récupéré en Suisse. C'était un oncle qui faisait partie d'une fanfare. Donc, j'avais découvert cette Miles Davis, Soft Machine, With the Report, le jazz, parce que moi, j'écoutais Hendrix, Led Zeppelin, enfin, la musique, le rock de cette époque. Et donc, je jouais dans la rue, j'avais appris Take Five de Dave Brubeck. Et il y a un gars qui est passé, un musicien, qui m'a dit « Tiens, moi j'aimerais bien insérer un saxophone dans mon groupe, viens ce soir à la maison. » Enfin bon, bref.
On et va Paul répéter. Desmond, on peut le dire,
ouais,
parce que le thème c'est
pardon,
Paul Desmond,
oui, pardon,
qui l'a écrit. Mais tout le monde le dit, oui, hein, mais c'est vrai que
voilà,
Brubeck a été un peu vache d'ailleurs sur ce côté-là, mais
ouais,
c'est vrai que c'est Paul Desmond qui a écrit le thème et c'est Brubeck qui l'a immortalisé, c'est vrai.
Rendons à Desmond ce qui est à Desmond. Et qu'est-ce que... Ah oui, donc je vais répéter, voilà. Et donc, ce musicien qui s'appelle Robert Baccherini, qui est toujours sur Avignon, m'a pris un peu sous son aile et m'a initié au métier, on dirait. Et puis, donc, de fil en aiguille, j'ai découvert l'harmonie, la manière d'improviser, etc., etc. Voilà, c'est comme ça que je suis venu vraiment au jazz qui me passionnait et que j'ai pu apprendre grâce, sur le tas et grâce à la rencontre de musiciens. J'ai fait les bonnes rencontres au bon moment, je pense aussi.
Donc au départ, il n'y avait pas de formation musicale
pas
traditionnelle, pas d'études de solfège,
non,
pas de lecture
non,
de la musique.
Non, rien.
C'était le compagnonnage qui a fait que on avance et on progresse.
Voilà, j'étais un ignorant total. Je me suis un peu amélioré et voilà. Mais oui, j'ai commencé la musique très très tard. Moi, je grattais un peu une guitare comme ça, trois accords, Hey Joe, à 18 ans. Puis
ça veut dire qu'en fait, si vraiment on aime la musique, si vraiment on aime ça, c'est peut-être moins facile sur certains instruments au niveau de la souplesse, des doigts, je pense, pour un guitariste ou voire un pianiste. Mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas.
En fait.
Il suffit d'en avoir envie.
Voilà, je crois que c'est comme tout. Si on a envie, on veut rêver un peu. Et puis avoir, comme je dis aussi, les bonnes rencontres.
Faire les bonnes rencontres.
Voilà, ouais, les bonnes rencontres, la chance. Bon, j'en ai fait des mauvaises aussi. Hein. Mais non, voilà, je crois. Puis la passion. Oui, un peu rêveur, c'est vraiment un peu... voilà.
Je crois que dans l'histoire du jazz, le jazz, en fait, par essence même, c'est un peu une histoire de rencontre.
Oui,
tout ce qui a été créé, tout ce qui a apporté, qui a fait bouger le jazz, c'est finalement de rencontres qui peut-être étaient improbables au départ, de gens qui se sont retrouvés dans des aventures parfois heureuses, parfois moins heureuses, hein, si on parle des origines même du blues. Et puis tout ça a fait que... Ben, on progresse, on avance, on croit en quelque chose, on a un demain plus rieur, plus radieux, et on avance. Et donc, de ce côté-ci de l'Atlantique, toujours dans les années 60, à l'époque où il y avait beaucoup de chemises à fleurs et pantalons très très larges,
ouais,
des marques de cigarettes qui étaient parfois difficiles à trouver, on se trouve en Angleterre avec une famille qui accueille un espèce de beatnik qui venait d'Australie, comme ça, un certain David Allen,
ouais.
Et puis des musiciens assez étonnants, Robert Wyatt, les Hugo Peur, etc. Et puis un nom qui reste pour les gens de notre génération, on peut le dire, hein, parce que
on est
tous les deux des gens qui sont dans la soixantaine et bien assumés, Soft Machine. Alors on devrait dire les Soft Machines, parce qu'il y a eu pratiquement autant de versions que que d'albums. Il y a eu, on peut dire, 6 albums fondateurs.
Oui.
Et puis après, ben, y a eu des expériences plus ou moins...
Oui. Bon, après, le sixième, voilà, c'était... je me suis un peu arrêté, là, disons.
Ouais, ça commence à être... j'ai lu une critique il n'y a pas longtemps qui disait que le sixième album, ça fait un peu l'effet d'un morceau de sucre qu'on mettrait dans une tasse de café.
C'est-à-dire
que ça donne juste un petit peu d'édulcorant, mais c'est plus vraiment la grande fougue.
Ouais.
Une musique complètement révolutionnaire, parce que là, au départ... On va chercher des sons, on va inventer des choses. C'est des gens qui viennent du rock, du rock progressif, d'un rock très psychédélique, puisqu'on est vraiment dans cette période où on a parlé d'Hendrix, etc. Et puis, ils ont envie d'aller plus loin.
Oui, tout à fait.
Et quand on est musicien de jazz comme ça, quand on a envie de jouer du jazz dans ces années-là, on se dit c'est ça. C'est de la musique, parce qu'il y a le patrimoine, on parlait de Take Five, on parlait de tous les standards, mais est-ce qu'on a envie de justement, parce qu'on est jeune, parce qu'on se sent pousser des ailes, on dit ouais, c'est ça qu'on va créer.
Ah oui, moi j'ai été, alors là c'était un flash, enfin je veux dire, un coup au cœur, quoi. J'ai entendu justement le premier morceau, je crois, de cette formule-là. Je connaissais le premier et le deuxième disque de Soft Machine, qui était plus psychédélique, on dira. Là, il y avait une approche du jazz, vraiment, avec des cuivres, etc. Un peu de Terry Riley, mais de la musique un peu répétitive. Et ça a été un coup de cœur. C'est là que je suis allé voir mon oncle et j'ai dit, il me faut ton alto de là. Et j'ai essayé. Et de son sax alto. Et oui, c'était... Moi, je réécoute très souvent. Je trouve qu'il y a une richesse, une inventivité. Et puis ça faisait le pont entre... Disons, on parlait hors antenne de Glenn Miller, enfin des big bands,
ouais,
comme ça. Moi, après avoir écouté Soft Machine, j'ai commencé à écouter des choses comme ça. Glenn Miller, j'ai fait le chemin inverse.
Peut-être pour la compréhension de la structure musicale,
les
arrangements, comment cette musique avait été mise en place, parce qu'il y a énormément de choses... Souvent, les gens qui n'y connaissent pas grand-chose ou qui n'ont pas vraiment écouté disent « Oui, le jazz moderne, contemporain, on ne comprend rien, c'est élitiste, c'est pas écrit, c'est n'importe quoi. » Alors qu'en fait, c'est pas du tout n'importe quoi. Et même s'il y a beaucoup, une part très très grande dans la musique improvisée, on le sait, il y a quand même au départ une grille, une ossature, un travail de fond qui est fait. Et ben, on va écouter justement Soft Machine, extrait de l'album Four, qui, on peut dire, c'est certainement le summum. Après ça... Ça commence à tomber.
Ouais.
Virtually, partie 1.
We'll be right back.
Vous écoutez Jazz à tous les étages, je reçois Georges Cabassi, on vient d'entendre donc un monument de jazz des années 70, Soft Machine, la période la plus riche, encore une fois, la plus créatrice, avec Hugo Poper, Elton Dean, Robert Wyatt et le quatrième qui s'appelle...
Mike Rutledge.
Voilà, tout à fait. Cette musique-là, donc, elle amène effectivement plein de gens à découvrir le fameux Fender Road. Il y a énormément de gens qui se mettent au clavier à cette période-là, parce que c'est vrai que c'est plus facile de transporter un Fender qu'un piano droit ou un piano à queue. Hein. C'est quand même beaucoup plus léger. On peut l'installer dans son salon. Moi, j'avais des copains qui avaient un Fender dans leur salon. C'était la grande époque. Il y avait le Fender, c'était un peu comme ça. Ah, comme les gens qui ont une télé 16 neuvième aujourd'hui, c'était presque le bijou pour les gens qui aimaient le jazz. Oh, t'as amené un Fender. Et puis, il y a des gens aussi qui amenaient des trucs beaucoup plus... stressant, c'est-à-dire les premiers synthés, il y avait plein de boutons là, qui ont contourné dans tous les sens et ils essayaient, ils cherchaient des sons et au bout de 5 minutes, en général, le gars il se retrouvait tout seul dans la pièce parce que c'était très 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 difficile à survivre. Mais c'était une période effectivement d'expérimentation étonnante. Et Georges Cabassi, donc, ben, il est l'invité de Jazz à tous les âges parce que je vous rappelle, il va jouer ici en Avignon le 3 février à l'Artefil en quartet, un répertoire donc qui est un... on va dire pas un hommage, mais qui est une évocation de cette période bénie, d'un jazz qui se voulait réformateur. On sortait des hard boppers, il y avait les gens qui rentraient dans le free pur et dur. Et puis donc cette vague un peu des gens qui inventaient des nouveaux sons avec Miles Davis, plein de gens qui allaient avec la musique. Et un autre au clavier qui aussi a apporté une pierre énorme à cette musique, c'est Chick Corea. Avec Return Forever, c'était une formation qu'il avait mis en place comme ça. Et le premier album a été, je crois, produit par le label ECM, le fameux label ECM de Manfred Escher, qui effectivement, c'est un peu. J'ai vu ça dans un journal il n'y a pas longtemps et je trouve que c'est une bonne définition. Les gens d'ECM ont inventé un enregistrement écologique, c'est-à-dire un son dépouillé de tout édulcorant, hein, de toute chose bien. Voilà, il y a les copains on se fait des petits trucs comme ça, les copains de Artefil qui sont dans la cour, on va leur dire de venir nous rejoindre. Ouais, il peut venir, allez, qu'ils viennent, pour parler d'un peu de ce qu'ils font ici dans ce beau lieu d'Avignon. Donc, on fait la petite pause musicale donc, pour leur permettre de s'installer au micro. On écoute donc Return Forever. Aussi, un deuxième petit retour comme ça dans cette période des années 70. Return Forever, une façon de, comme ça, de poser des bornes, des jalons dans la vie de chacun, dans l'histoire de la musique et puis aussi dans la vie d'un musicien. Parce que c'est encore une fois, Georges Cabassi, c'est une grande période de création, cette période. Et comment on fait la part, on va dire, la part des choses entre l'envie de jouer, de jouer beaucoup, et puis de dire, ben justement, il faut que je sais rien, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, on s'aperçoit que on croit savoir, et puis en fait, on ne sait, oui. Quand on est confronté comme ça avec d'autres, on ne sait pas. Alors, comment on arrive à réfréner cette envie?
Bon, moi, ça a été. Quand j'ai rencontré ce musicien, donc je me suis rendu compte de mon ignorance. J'ai travaillé, je bossais. Bon, c'était 5-6 heures par jour, 7-8 heures par jour. Et plus j'avançais, plus je me rendais compte que. Enfin, ça me semblait sans fin, quoi. C'était un puits sans fin. Voilà. Puis un jour, il a bien fallu se lancer. J'ai donné mes premiers concerts. Puis j'ai découvert le plaisir de la scène, ou les angoisses aussi, bien sûr. C'est pour ça aussi qu'après j'ai un peu plus écrit, parce que au début, la scène, c'était difficile pour moi. J'avais toujours le trac, en fait, j'étais pas bien, quoi. Enfin, j'étais pas sûr de moi, en fait, ne sachant rien, enfin, ou pas grand-chose. Donc là, j'ai commencé très vite à écrire, donc je me suis intéressé aussi à l'harmonie, à l'écriture, écouter les grands arrangeurs, Gil Evans, etc. Oui, oui.
En fait, si on ne travaille pas, si on n'écoute pas les autres, si on n'essaye pas de découvrir un peu, de gratter, il y a pas de, sauf cas très très rare dans cette histoire du jazz, il y a pas de génération spontanée, il y a pas de génie comme ça qui arrive.
Il y en a sûrement, mais
il faut travailler.
C'est pas mon cas, ça, c'est sûr.
il faut
Voilà, oui, moi j'ai bossé. Enfin, bossé. Maintenant, je n'appelle plus ça du travail, c'est de la pratique, quoi. Hein. C'est que j'aime faire ça. Mais oui, il y a un temps, c'était bon, un peu. Je m'acharnais. Mais voilà, maintenant, depuis un peu avec philosophie et l'âge venant, c'est plus. Oui, c'est de l'ordre du plaisir. Je ne vais plus le matin jouer du saxophone. Si je n'ai pas envie, je ne le fais pas.
On va pas faire de la musique comme on va au bureau.
Plus mal.
Avec beaucoup de respect pour les gens qui vont au bureau, bien entendu.
Bien sûr, oui, je comprends.
Non, il faut quand même garder sa part de création, de d'imagination.
Oui, de spontanéité, d'envie, puis d'arrêter de s'angoisser, de se dire si on travaille pas une ou deux heures, ça ira pas. Enfin, je veux dire, c'est souvent ça, on se dit si. Alors, il y a des grands musiciens qui travaillent 6 heures par jour, 7 heures par jour, et puis bon, voilà. Mais moi, je me suis rendu compte que j'étais pas dans cet esprit-là. Mais c'est plus, voilà, maintenant, c'est il faut que ça soit un plaisir. Mais il a fallu du temps. Hein. Maintenant, ça fait une vingtaine d'années, parce que je suis plus tout jeune. Donc, une vingtaine d'années que je me suis rendu compte de ça. Et depuis que j'appelle ça pratiquer, enfin jouer de mon instrument sans penser travailler... Je me sens beaucoup mieux dans ma tête et dans ma musique, ça c'est sûr.
Alors, dans les aventures, dans les expériences de Georges Cabassi, il y a quelque chose qui... On dit, c'est un peu comme quelqu'un à qui on va prêter pour une journée une Ferrari, alors que là, en fait, il faut plus d'une journée quand même pour bien la conduire, c'est un big band, un grand orchestre.
Ah oui, mais ça c'est ce
l'aventure... C'est le bâton de maréchal.
Ouais, là, ça a été une expérience extraordinaire. Grâce à des musiciens de la région, donc, qui ont accepté de se rendre disponibles, la difficulté d'organiser les répétitions. Il n'y avait pas de SMS. Ma facture téléphone à la fin du mois, c'était monstrueux. Mais ça a été une expérience exceptionnelle. Et puis, on a eu la chance de pouvoir enregistrer quelques titres. Au studio de la Buissonne avec Gérard de Haro, donc ça a été
incontournable,
voilà,
bien sûr, la Buissonne.
C'était vraiment une super expérience. J'avais écrit une dizaine de morceaux, et puis la première fois où je me suis retrouvé face aux 22 musiciens, je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner, 3, 4, et ça a été extraordinaire. Bon, pas que je dis que ce que j'avais écrit était extraordinaire, mais d'entendre ça, cette musique, où j'avais dans la tête que j'essayais un peu de jouer au piano comme ça, mais avec les trompettes, trombones, enfin, etc. C'était... Et puis j'avais la chance d'avoir des très bons musiciens, des amis. Voilà,
c'était c'est là où peut-être il faut garder la tête froide, justement. Bah,
oui.
Pas se dire, oh là là, je suis Duke Ellington ou je suis Carbazy, c'est ça?
Non, oui, oui, tout complètement.
Bon, les gars, demain on revient, on commence parce que c'était
oui,
pas terrible.
Oui, voilà, oui, oui, non, non, là, il faut être, ouais, être humble, je crois. Hein.
Bon, économiquement, on sait que c'est très difficile.
Oui, oui.
Déjà pour les organisateurs de concerts, faire venir un big band avec les frais de déplacement, les cachets, c'est pratiquement impossible. Et puis faire tourner un big band, c'est aujourd'hui, il y a très très peu de big bands en France.
Ouais,
je crois qu'il y en a un du côté de Montpellier qui tourne beaucoup.
Oui, je pense, oui. Il y en a quelques-uns, oui, il y en a, mais voilà, c'est un investissement total. Moi, j'avais eu la chance quand même d'avoir une personne, Sylvie Patureau, qui s'était occupée de nous trouver les quelques concerts qu'on a eu la chance de faire. Je reviens sur les musiciens, leur disponibilité, parce que bien sûr, il n'y avait pas de cachet. Enfin, le peu d'argent qu'on gagnait, ben, il fallait l'investir dans l'enregistrement, par exemple, etc. Et voilà, mais peut-être qu'un jour, pourquoi pas.
Il faut trouver, bien sûr. Ça, c'est le côté aussi, c'est le côté obscur de la force, pour reprendre une formule contemporaine. C'est que dans ce métier, dans ce milieu de la musique, c'est pareil aussi un peu pour le théâtre et la chanson, il faut être aussi son propre agent, organiser, faire, envoyer des courriers, faire aujourd'hui des mails, etc. Et puis, il y a quand même des gens comme ça, de temps en temps, qui ouvre des portes, qui dit « Tiens, mais si on faisait du jazz, c'est le cas des gens de l'Artefil. » Bonjour Anne, je l'ai réveillée. Elle était en train de rêver à sa saison qui va démarrer.
Non, j'écoutais.
Une saison qui n'a pas qui va démarrer, je dis une bêtise.
Oui, depuis octobre, oui.
Il y a une saison qui tourne bien, au contraire. Et puis ben là, donc, le 3 février, c'est du jazz.
Oui.
Au départ, Artefil, c'est un lieu de théâtre, un lieu qui a toute une visibilité pendant le festival, qui justement, aujourd'hui, se donne une seconde visibilité hors saison festival, mais pour faire que ce soit devenu un lieu de création permanente. On pourrait dire, bah ouais, il y a du théâtre, il y a beaucoup de théâtre, il y a des lectures, il y a des choses. Et puis le jazz, comment on essaye d'assembler, d'articuler ça? Je sais que Georges, il a deux casquettes, il en parlera tout à l'heure, puisqu'il écrit aussi des musiques pour le théâtre. Mais quand on a la charge de faire fonctionner un lieu de création, de diffusion, comment on se positionne?
On n'a pas forcément besoin de se positionner, justement. Ouais, Artefil, c'est pas en tant que tel, on ne l'a pas bâti comme un théâtre. Il y a un théâtre à Artefil. On l'a bâti comme une structure culturelle. C'est pour ça qu'il y a aussi un atelier d'art plastique. Et notre ligne artistique est mue par les personnes que l'on rencontre, l'envie qu'ils ont, l'envie qu'ils nous donnent de travailler ensemble et la qualité et le talent de ces personnes. Donc, le jazz... C'est juste beau. Enfin,
on pourrait dire
ce qu'ils font, c'est juste beau.
On peut peut-être pour donner une image très simple. On reste dans le domaine des musiciens. C'est un amplificateur en fait. Ça permet à des gens qui ont des choses à dire de faire que d'autres puissent l'entendre. Un lieu comme Artefil.
Ouais, complètement. Et puis par rapport à Georges et puis au quartet, c'est vrai que déjà c'est un grand plaisir de les avoir parce que leur humilité, leur gentillesse, la générosité est vraiment là. On la sent, ils nous la donnent. Et ça donne de toute façon envie. Et puis hier, je suis allée aux répétitions, je me suis pris une bonne dose d'endorphine, c'était génial. Et quand même, l'arrêt, c'est quand même pour ça. C'est quand même
il y a
pour
cette disponibilité aussi qui fait que c'est un lieu de création. Donc on peut venir répéter, on peut venir travailler avant de présenter.
Ah bah, même au contraire, parce que nous, c'est ce qu'on...
C'est pas un magasin où on vend juste un spectacle, on prépare.
C'est aussi pour ça qu'on ne cloisonne pas, on ne se dit pas, bah non, ce projet, il est super, mais bon, c'est pas du théâtre, ce serait ridicule. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les différents langages artistiques quel qu'il soit. Une fois, ça peut être du classique, après, ça peut être du voilà, ça peut être de la danse et ça peut être du cinéma comme avec le cinéphilia, c'est, voilà, des lectures, parce que c'est la base du théâtre. La lecture d'un texte, c'est la compréhension d'un texte. Le théâtre pour les enfants, les arts plastiques, le mélange des arts plastiques, du théâtre et de la musique. Voilà, tout ça, c'est à un moment donné, on choisit. D'ailleurs, je ne crois pas qu'un artiste puisse choisir son art. C'est un moyen de communiquer qui est plus simple que la parole et qui est naturel. Il n'y a pas de... Voilà, sûrement, souvent, on dit, ouais, un artiste, alors... C'était quel jour vous êtes devenu artiste, mais c'est quel jour on marche, quel jour on respire. Il n'y a absolument pas de limite. Et chez Artefield, notre volonté, c'est que chaque discipline artistique se sente complémentaire d'une autre et s'enrichisse aussi des autres, parce qu'elles expriment en définitive la même chose, sauf que l'écriture n'est pas la même. Et c'est pour ça que quand l'envie est là, quand le talent est là, quand le plaisir est là, donc forcément la qualité du moment qu'on va partager, qu'on va proposer au public, c'est juste ça, un lieu culturel. Enfin, pour nous, c'est ça, un lieu culturel.
On va mettre des très très gros guillemets, parce que c'est quelque chose qui a été galvaudé et puis qui ne veut peut-être pas dire grand-chose aujourd'hui. Le message, en fait. Un lieu de création, comme ça, de présentation. On parlait de vocabulaire, d'écriture, mais l'important, c'est ce qui va être perçu. Ce message, encore une fois, je mets des très grands guillemets dans le terme de message, mais la résonance, en fait, l'impact que ça va avoir sur des gens qui sont en résidence ici, sur Avignon, des artistes et des spectateurs aussi qui sont en résidence, puisque c'est hors saison, conventionnelle, où il y a plein de touristes, il y a plein de Japonais dans les rues. Là, c'est des gens qui vivent et qui travaillent en Avignon qui viennent, je suppose.
Ah ben, oui, bien sûr. Et même, je pense qu'on va... notre grand plaisir, même, c'est de voir justement cette création et l'évolution des projets. Donc, je pense que on va très rapidement, d'ailleurs, agrandir les temps où les artistes sont accueillis en résidence, parce que la genèse d'un projet aide complètement à comprendre un projet, et de voir l'humanité dans un projet, c'est pas l'objet fini. L'humanité dans le projet, ça a été les erreurs qui ont été faites, les changements de cap, et pourquoi d'arriver à comprendre pourquoi l'œuvre finie, parce que pour moi une pièce de théâtre c'est une œuvre, comme le sera un tableau, comme l'est un morceau de musique, comme le théâtre, c'est une œuvre d'art qui est éphémère, parce qu'elle sera jamais deux fois la même de toute façon. Donc c'est ça qui nous intéresse. C'est cette création-là, c'est ce moteur humain qui nous intéresse. Et comme vous disiez, c'est extrêmement difficile de vivre d'un art, parce que justement, la plupart des personnes qui ne pratiquent pas cette langue-là, surtout, je trouve, chez nous en Occident, ils sont entourés de ça. Donc ils ont l'impression que ça ressemblerait à un loisir. Quelque chose qui n'est pas utile. Or, tout notre héritage vient quand même de ça. Et ce qui fait qu'on est ce qu'on est actuellement vient quand même du fait qu'il y ait eu des artistes et une évolution artistique en même temps que notre époque.
Il y a souvent, c'est presque une boutade, je me tourne vers Georges, mais il y a des gens qui disent « mais vous avez un vrai métier à côté ?»
Ah oui, je crois que même Julien, qui est prof, donc... au Conservatoire d'Avignon, professeur de la classe de jazz.
Julien Tamizier, qui est le pianiste, le claviériste de ce quartet qui jouera le 3 prochain, 3 février prochain.
Un de ses élèves lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites, votre vrai métier, c'est quoi?
Mais l'important, voilà. C'est de se sentir bien dans un lieu pour peut-être effectivement pouvoir grandir.
Nous aussi, de toute façon, on nous le dit, hein. Mais pourquoi vous faites ça? Comme si c'était pas juste constitutif, en fait, de l'humain. C'est terrible, moi, je trouve.
Alors, est-ce que le coup de la bouteille ou du verre à moitié plein, à moitié vide, est-ce qu'il vaut mieux conserver cette espèce d'incertitude sur la faisabilité, mais aussi le côté indispensable en gardant sa liberté, ou si on se dit ben on aimerait bien quand même avoir un peu plus de reconnaissance, donc de moyens pour le faire. Est-ce que c'est toujours un petit peu le côté ambivalent? Si on nous aide, est-ce qu'on conservera cette liberté? C'est valable aussi pour les musiciens. Vous pouvez répondre tous les deux, ou c'est dur?
Non, je t'en prie.
En ce qui me concerne, j'ai toujours retenu à être libre, enfin bon, voilà, pas tout. Être indépendant. Avec ma femme, on a un théâtre aussi, qui s'appelle le Théâtre Rocky. On n'a pas de subvention, on n'a rien, mais c'est un choix. Mm-hmm. C'est parce qu'on n'a pas l'envie de. Enfin, ça s'est présenté comme ça. Et oui, être indépendant, être libre. Alors après, c'est difficile pour certains lieux, sans fric. C'est pas avec les entrées, par exemple, des spectacles comme ça qu'on peut faire vivre un lieu, hein, aussi. Alors, donc voilà. En ce qui me concerne, bon, la liberté, tu vois, le premier morceau que tu as passé, il s'appelait No Power.
Oui.
Alors ça peut être pas de puissance, hein, ou certaines impuissances, ou pas de pouvoir. Alors j'étais ma période anarchiste, je pense. J'aurais dit aucun pouvoir.
Alors on va donc, enchaîner avec la musique de Georges Cabassi, justement, et là c'est une ombre silencieuse, un silent shadow. Comment on choisit un thème, un titre de morceau, ça correspond à l'état d'esprit dans lequel on est au moment ou...
Moi c'est des fois mes morceaux ils ont 3-4 titres, je les change encore des fois, alors j'ai des problèmes avec l'assassin en fait.
Ah oui,
mais c'est un peu comme moi, j'adore la peinture, je dessine un petit peu, mais comme ça. Et c'est un monde où les titres peuvent devenir évocateurs. Silent Shadow, ça me plaisait bien, cette histoire d'ombres qui ne disent rien. Elles disent rien par essence, donc voilà, c'était rigolo.
y a du jazz à tous les étages sur Osmose cet après-midi. On reçoit Georges Cabassi pour le concert qui aura lieu donc le 3 février prochain à l'Artefil en Avignon. On a parlé des instruments électriques, on a parlé des claviers, on a parlé de toute cette influence des années 70. Mais il y a aussi quelqu'un qui joue un rôle énorme dans la construction musicale, la construction d'un individu tout court s'il aime le jazz, c'est John Coltrane. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Coltrane qui n'a pas déjà été dit? Et qu'est-ce qu'un musicien, un saxophoniste de plus, pourrait dire de Coltrane?
C'est quelqu'un que j'aime particulièrement, parce que, bon, fantastique musicien, inventeur de tous les instants, d'après les gens qui en parlent, un type humainement absolument délicieux, gentil, tout ce que j'aime. Et puis, ouais, un génie, quoi.
Un génie. Un vrai génie qui a inventé les fameuses nappes de son, cette façon d'amener des notes, qui est une richesse musicale, qui a travaillé sur le modal, qui a eu des périodes free, qui a eu des périodes balade, qui est un peu comme ça en une carrière très courte, hein, parce qu'il est décédé à 40 ans d'un cancer du foie, qui a révolutionné. Et il y a peut-être quelque chose qui donne la puissance, la force de Coltrane, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des minots, pour ainsi dire, qui achètent des disques de Coltrane.
Oui, c'est une référence. Enfin, je veux dire, je pense qu'il est rentré dans l'imaginaire collectif, comme on dit, au même titre qu'on parle de Mozart, de Bach, même des fois sans les connaître. Peut-être qu'on parle de Coltrane. C'est un nom dans le jazz comme Miles Davis, Duke Ellington.
C'est quelqu'un qu'on va entendre tout à l'heure qui disait qu'en fait, dans les grandes aventures du jazz, il y avait deux bornes comme ça qui avaient fait quelque chose, qui avaient fait bouger les lignes. C'est Armstrong et Coltrane. À leur manière, tous les deux, d'accord, ils étaient des musiciens free à leur manière. C'est-à-dire qu'ils amenaient le bon terme de free, c'est-à-dire la liberté. On va se faire une petite virgule musicale qu'on connaît bien. Voilà, donc indicatif du grenier, le grenier d'Osmose qui, chaque semaine, vous emmène à la découverte d'un thème. Alors aujourd'hui, on va parler, bien sûr, d'un thème de Joel Coltrane, un thème qui a une histoire particulière, parce que c'est Alabama. C'est une musique qu'il a écrite en 1962, après que le Ku Klux Klan avait dynamité une église. Il y avait eu quatre jeunes filles qui était morte, et il a enregistré ce fameux thème, donc de Alabama. On peut d'ailleurs retrouver sur internet un enregistrement de ce morceau, j'allais dire pièce, parce qu'on dit, on parlait de Mozart, c'est presque des pièces, hein, les thèmes de Coltrane. Ça s'appelle le Casual, et c'est une sorte de télé éducative, et on retrouve des séquences comme ça filmées en noir et blanc, avec un côté complètement, on a l'impression qu'il vient du siècle dernier quand on regarde ces images. Et donc on va écouter ce morceau Alabama, et ensuite on va écouter quelqu'un qui aussi a apporté beaucoup dans cette musique et qui aussi a beaucoup été influencé par Coltrane. C'est quelqu'un qui doit beaucoup à John Coltrane, c'est Archie Shepp. Tout ça, c'est la séquence du grenier d'aujourd'hui. Thank you.
Creuse, la web radio.
J'étais en université à Vieux-de-Temps, j'ai rencontré John Coltrane. J'avais vu avant, mais parce que je viens de Philadelphie, il était bien connu à Philly et de temps en temps, une fois j'ai attendu une boîte, il a joué, mais je n'avais pas la chance de parler avec lui. C'est vrai, j'ai rencontré à la Five Spot à New York City. Mais et à ce point-là, je vivais à 19, 20 ans. When John Coltrane arranged for me to record with Impulse Records, c'était fortuiteux pour moi. Il était très généreux parce que, en fait, j'avais essayé plusieurs fois de joindre le chef de Impulse, Bob Thiel. J'ai jamais arrivé à joindre Bob Thiel jusqu'à ce que j'ai demandé à Coltrane s'il veut faire un faveur pour moi et demander pour moi que je fais un disque avec la compagnie. Il était très disponible dans ce sens et il a parlé avec Bob Thiel et le jour où j'ai appelé, le secrétaire dit à moi, il prend son déjeuner mais il vous attend. Et donc on a fait parler d'un projet de faire des morceaux des originales.
Mm-hmm.
Ça y est. Ah, je croyais que j'avais plus de micro, ce qui était un peu embêtant quand on fait de la radio, reconnaissez-le. Je voulais dire, on vient d'entendre, Georges Capassi, deux saxophonistes, et non des moindres, Joel Coltrane, et puis là tout de suite Archie Shepp, qui racontait un peu comment Coltrane lui avait permis de forcer la porte du label Impulse, et d'enregistrer le fameux Four for Train et Naïma qu'on vient d'entendre. Et sans être musicologue, sans être même musicien, on entend deux saxes, on entend deux sons, on entend deux façons de sortir le son. Alors, il y a le bec, bien sûr, la force des hanches, c'est-à-dire ce petit morceau de bois que les saxophonistes mettent. Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît aujourd'hui le son d'un musicien? C'est la technique ou c'est le... Qu'est-ce qu'il y a? C'est une combinaison, une magie entre tout? C'est une sorte de cuisine?
Bah, oui, un peu entre tout, mais... Pardon. Bon, je crois que c'est sa personnalité, en fait, le son. Hein. Comme vous reconnaissez, c'est pas de moi, hein, du reste, cette petite... quand vous décrochez le téléphone, que quelqu'un vous parle, vous reconnaissez tout de suite qui c'est, même s'il ne vous dit pas son nom.
C'est juste.
Ben, le son d'un sax, enfin d'un instrument, c'est un peu ça. Quoi. Je crois que chacun a sa sonorité. Après, il y a effectivement le bec, les hanches, etc.
Il y a de la recherche et du travail.
Voilà. Oui, voilà.
C'est on ça. Raconte que Coltrane achetait des becs à n'en plus finir et qui, quand il n'était pas satisfait, ben, tout de suite, il donnait à ses copains et puis il avait des boîtes à chaussures pleines de becs de saxophone parce qu'il cherchait le son parfait.
Pour oui, dire. Oui,
et
fait,
tant
oui.
qu'il n'avait pas trouvé le bec qui convenait à son état d'esprit du moment, ben, il les mettait de côté.
Oui, et puis je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est de chercher sans arrêt son. Donc, c'est pas figé. Après, on reconnaît, ben, les saxophonistes, on les reconnaît à leur jeu, ouais, à leur phrasé, notamment au son.
Il y a des saxophonistes, ouais. Je pense, qui utilisaient des becs, des hanches très très dures, comme Barker, comme Gatto Barbieri. Je crois qu'on peut difficilement faire des choses plus difficiles que le son de Barbieri, qui est un son très, très acidulé, quoi, qui est très 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 typé. C'est une signature.
Alors ouais, sur Barbieri, c'est très bizarre. J'ai longtemps cru qu'il jouait avec des hanches extrêmement dures, avec un bec très ouvert, et apparemment il jouait des hanches de 1,5, ce qui est rien, puisque ça va jusqu'à 4 ou 5. Donc ça, c'est de la technique. Mais donc ça ne veut pas dire parce que la hanche serait très dure qu'on peut avoir un très gros son. Mais bon, j'ai lu ça dernièrement dans un magazine. Je ne sais pas si c'est exact, mais voilà.
Eh bien voilà, vous voyez, il suffit de mettre la clé dans le démarreur. Oui, oui. Georges Capassi a aussi une autre casquette. Oui. Vous êtes en train d'écrire, je crois, la musique pour un spectacle qui va se jouer au Théâtre des Halles prochainement.
Oui, au mois de mai.
Ouais.
C'est ma femme qui met en scène, qui est professeure au conservatoire. Elle va mettre en scène une vingtaine d'élèves. Sur une adaptation qu'elle a fait des Vagues de Virginia Woolf. Elle m'a demandé d'écrire la maison pour
la musique de scène.
Je parle de ma femme, je pense à la maison.
Normal. Cet homme est parfait.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc Sylvie Boutelet m'a demandé d'écrire la musique pour un quatuor à cordes. Alors ça, c'est un plaisir.
D'accord. Et ça sera, c'est une musique qui va être jouée sur le plateau?
Sur le plateau, oui, ouais. En direct, il y aura Louis Guillermin, qui est contrebassiste du quartet, qui fera la partie de contrebasse, et deux jeunes élèves du conservatoire. notamment mon petit-fils.
Donc on aura l'occasion de se revoir, voilà. Je pense, en osmose pour un spectacle. Donc c'est au mois de mai.
Au mois de mai.
Pour l'instant, l'actualité de Georges Cabassy, on le rappelle, c'est le 3 février, ici au théâtre. Je ne sais plus dire théâtre maintenant. Artéphile, au lieu Artéphile, ce lieu de culture, de rencontres, d'aventures musicales, théâtrales. Il y aura des choses très très intéressantes. Quelque chose aussi autour de Franck Zappa, on y reviendra plus tard. Anne, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus à Artéphile que ce qui arrive de bon depuis la rentrée?
C'est de continuer comme ça. Je pense.
Oui, bien sûr. Le contraire est étonnant. Oh non, je veux arrêter. Il y a des envies, il y a des envies secrètes comme ça. Dire, je voudrais bien qu'on puisse faire ça.
Non, je crois qu'on essaie de se donner toutes les possibilités pour pouvoir faire les choses. Après, c'est une question effectivement d'énergie, de plaisir et d'échange. De toute façon, on partage les choses. Donc, effectivement, vu l'espace. De la salle qui est plus grande, l'orchestre symphonique ne sera pas possible.
C'est pas pour bien sûr.
Ça on ne sera pas rêver, possible. Quoi, hein, pas rêver. Mais donc voilà. Après, mais en dehors de ça, effectivement, tout est possible. On a essayé de faire en sorte d'avoir un cocon où on se sente bien, où les artistes se sentent bien, voilà. Nous aussi on se sent bien.
On puisse passer une heure, et deux heures dans de bonnes conditions, toujours dans ces lieux. Avignonnais qui sont magiques parce qu'il y a une proximité avec le musicien, le comédien, le danseur, parce qu'on y, on peut presque les toucher, pour ainsi dire.
Mais c'est vrai que lorsqu'on a repris les lieux, il y avait une grande fosse qu'on a rapidement comblée, histoire effectivement d'être vraiment avec ce qui se passe au plateau, et inversement, que les personnes qui sont sur le plateau soient aussi avec le public.
On la sent cette proximité, Georges Cabassy, quand on joue. On sent le public réagir en disant là aujourd'hui, il n'y a rien à en tirer, ils ne vont rien faire. Au contraire, les gens réceptifs.
Oui, il n'y a rien à en tirer. C'est-à-dire que des fois, il y a des musiciens qui sont.
Non, mais je parlais du public. Enfin, je parlais du public.
Parle de moi, là.
Parce qu'il y a des. Parfois, on entend des bruits de verre, voire presque de téléphone portable. Oui. Aujourd'hui, il y a toujours des incongrus qu'on oublie d'arrêter.
Oui, non, mais on sent tout à fait. Assez vite, si.
Ça on entend le silence ou on n'entend pas, pour ainsi dire.
L'écoute, le silence, voilà, exactement. Oui, tout à fait.
Une question comme ça qui me tracasse. Il y a quelque chose qui est devenu une convention. Mmh. C'est qu'après un solo, après des chorus, les gens se sentent obligés d'applaudir. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, j'ai l'impression que.
Moi, personnellement, ça me gêne dans le sens. Pas ça gêne la musique ou ce que je suis en train de jouer, mais.
Bon, ça, je note.
c'est que. Est-ce que. Ça, en fait, on applaudit une performance, quoi.
Oui.
Bon, voilà.
Ouais, on applaudit un instant.
Alors, je comprends. Bon, ouais. C'est un peu applaudir. Bravo, mon gars, c'est bien. Hein, mais moi, je préfère quand le morceau commence jusqu'à la fin. Bon.
Quand il y a un silence parfait après un solo, quelque chose, ça peut dire peut-être que là, justement, on est arrivé au maximum, au diapason. Il y a une communion, il y a une osmose. Oui, oui. C'est un mot qu'on aime bien ici, entre tout le monde. Donc, ce concert, pour y venir, c'est simple. On peut aller sur le site, artéphile, en un seul mot, .com. Il y a aussi un numéro de téléphone où on peut réserver, le 04 90 03 01 90. Et puis, il faut dire aussi que c'est pas très cher, quand même. Ça, c'est bien aussi. Hein. On peut, à partir de 10 euros, je pense avec une carte off ou des choses comme ça.
Carte off,
si vous avez gardé votre carte, vous avez intérêt.
Les
étudiants, et puis le tarif grand public, c'est 16 euros, ce qui fait une soirée à des prix tout à fait raisonnables.
Bah, c'est ça aussi, c'est grâce au groupe. Je pense qu'on a tous plaisir à faire ce qu'on fait, en fait. Donc, c'est leitmotiv quand même.
Alors, ce quartet, il a d'autres ambitions. Bon, il y a d'autres concerts, il y a peut-être un disque. On ne l'a pas dit, mais vous pouvez trouver aussi les enregistrements de Georges Cabassy sur MySpace. Si vous arrivez à faire marcher MySpace, autre problème.
Mais
on ne parle pas de la distribution des disques, parce que là, on va y passer l'après-midi. Mais des projets après.
Peut-être enregistrer, un enregistrement prévu peut-être, mais dans quelques mois. Enfin, on va travailler encore un peu.
La Buissonne.
Ah, Bisson, ce serait génial. Ben, j'ai un ami qui va peut-être descendre de Suisse, qui est un super preneur de son, musicien. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est pas trop. Quoi.
Voilà, donc dans la programmation qui s'appelle Cordes sensibles, c'est un joli thème. 3 février, donc Georges Cabassi qui était notre invité. Et puis le 6 et 7 avril, aussi un trio qui sera bien intéressant, on en reparlera. Tess et Ben avec, entre autres, une contrebassiste absolument étonnante. Voilà, on se quitte avec, c'est trop vite, mais on se quitte avec Georges Cabassi, The Last, The Lost, un dernier thème pour histoire de parachever cette grosse heure de jazz à tous les salles. Merci Georges d'être venu à nous.
Merci
à Anne d'être. Merci pour tous les jours et puis pour être venu un peu nous dire de plus près ce qui se passe ici. Allez, à bientôt. Georges Cabassi, on se retire sur la pointe des pieds. We'll be right back.